c'est transmettre, je ne sais pas, c'est une maïeutique, transmettre. Hein.
Parce que, plutôt que transmettre, on pourrait presque dire que vous avez envie de susciter le désir de... Et puis tout à l'heure, vous parliez de prendre, de déposséder, si c'est ça, de dépossession, c'est-à-dire de prendre les moyens et les outils pour faire. Parce que ça, quelque part, dans la manière dont vous faites vos films, c'est un c'est pas orthodoxe, ou pour le moins c'est peu malin, c'est une place non pas un peu marginale dans le, par rapport au système et à l'industrie. Or, dans le désir que vous avez apparemment de susciter l'envie de faire, vous dites un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure à propos des outils vidéo, notamment, de prendre la possession des moyens.
Oui.
Il me semble accaparé.
Oui, c'est reprendre légitimement des moyens qui sont dérobés, qui sont... C'est dans le sens de cette savoir que l'on dérobe ces moyens, que l'on interdit aussi la diffusion qui peut être faite des... si on c'est comme si on prenait malgré l'industrie des moyens auxquels on ne serait pas autorisé. Et auquel enfin on ne veut pas donner de diffusion à ce qui est fait à partir de ces moyens que l'on prend malgré l'industrie. Il y a une transgression que l'on pardonne difficilement aux créateurs. Bon, j'exprime ça, c'est un peu confus, c'est une fin d'entretien où je suis. C'est vrai qu'on est là depuis combien de temps depuis. Il y a une heure et demie déjà. Bon, et je sais pas, il y a une heure et demie de film enregistré aussi. Oui, ça fait 3 heures si on additionne. Mais peut-on additionner du son et du film? Voilà, c'est tout le problème. Eh ben non, justement. Et ce qu'on fait dans le cinéma courant, ça ne joue pas sur la durée, mais... on additionne, on illustre, au lieu de faire un travail organique, un travail d'écriture, d'intriqué, de fuguer, je ne sais pas, les moyens de l'image et les moyens du son, on additionne. Voilà. Du moins, croit-on additionner, parce qu'on ne peut pas additionner des choses qui ne peuvent pas s'ajouter les unes aux autres. On fait du quantitatif, voilà. C'est tout le problème du cinéma quantitatif et du cinéma qualitatif. Voilà.
Quantitatif et qualitatif, c'est le règne de l'image qu'on voit partout et qui ne montre rien, c'est le règne de l'informatif, des médias.
Ça donne l'absence de limite que l'on accorde, que l'on attribue aux médias. Hein. Les médias devraient être, sont de plus en plus, doivent être de plus en plus partout. On vous parle de la solitude d'un personnage en vous le montrant. Et c'est-à-dire qu'on arrive à occulter le sens même de l'image. C'est-à-dire qu'on arrive au mensonge affirmé et indétectable, c'est-à-dire que on est arrivé à amener le spectateur à ne pas détecter le fait qu'on est en train de lui mentir en parlant de la solitude d'un personnage qu'on est en train de montrer et qui donc n'était pas seul. Hein? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui me terrorise, qui me fait peur, parce que ça mène aux pires perversions et à travestir le vrai, enfin, à le modifier, à lui faire dire autre chose.
C'est le rapport à la réalité.
C'est le rapport, oui. C'est très grave. Bon, et moi, c'est ce que j'essaye de faire, même si c'est à travers une fiction, de ne pas pervertir ce rapport à une réalité.
Et,
oui, c'est ça, ça part d'une vérité. Bon, c'est un grand mot peut-être, mais ça part, disons, les choses comme ça, pour les schématiser, d'une vérité intérieure. Et même si cette vérité s'exprime justement à travers une fiction, et parce qu'elle s'exprime justement à travers une fiction et la métaphore, elle est plus vraie que ce qu'on voudrait représenter comme une vérité. Parce que toute vérité représentée, enfin tout ce qu'on appellerait la vérité qui est représentée, est forcément fausse. Hein. Tant qu'à faire entre le choix d'une vérité fausse et d'une fausse vérité, je préfère une fausse vérité qui dit quand même le sens du vrai. Hein. On me comprend là, c'est j'essaye d'accentuer le faux, de pervertir à ma façon l'image, le vrai pour en restituer le squelette, pour en faire une espèce de radiographie, disons quelque chose qui montre l'intérieur, cet intérieur qu'on n'ose pas la plupart du temps montrer. Parce qu'on ne devrait toujours réagir, se laisser aller à réagir par rapport à tout événement de manière subjective, plutôt que de prétendre le faire de manière objective. Il y a cette part de subjectivité, mais étalée au grand jour, qui donne l'objectivité. Hein. Et c'est pas l'objectif en reprenant même génériquement l'objectif de la caméra. C'est pas une caméra braquée sur quelque chose ne donne pas forcément ce quelque chose, le représente, mais n'en représente pas l'essence, n'en montre pas l'essence même. Et on cultive ça. Je crois qu'il y a un pouvoir occulte qui cultive ce genre de choses. Enfin, ça, c'est un peu parano de dire les choses comme ça. Je veux dire, c'est pas, c'est bon. Allons jusqu'au bout de cette parano. C'est comme un complot organisé qui fait, mais c'est un complot collectif. C'est une parano collective, mais qui n'est pas visible, qui n'est pas détectable, mais qui fait que un certain pouvoir profite, abuse de l'image, se sert de l'image, et comme une chose qui serait objective, mais qui est une aliénation.
La dernière fois, j'utilisais cette expression de l'image de la réalité et la réalité de l'image. Je pense que la réalité de l'image peut utiliser des artifices, justement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la réalité de l'image ? Parce que, par exemple, dans un film de fiction, il y a les réalités de l'image, et des sons même, dans leur discordance, ou leur ce qui n'est pas synchrone, par exemple. Ça, c'est une des réalités de l'image, et ça ne donne pas forcément du faux.
Je crois qu'il faut, s'obliger à... Il faut s'obliger à exacerber... les contraires en se servant de l'audiovisuel, en se servant des images et des sons. Je crois qu'il faut qu'il y ait une dialectique qui se fasse entre les sons et les images et qu'il y ait comme un démenti de l'une par l'autre. C'est ce démenti qui rétrécira le champ d'observation et le rendra plus vrai, plus juste, qui donnera plus de discernement par rapport à ce champ. Sinon, il y a une déperdition des choses. Je crois que c'est une certaine forme de contradiction, de dialectique, qui peut donner le vrai par rapport au faux. Et je crois qu'il faut cultiver, exacerber le faux pour dire le vrai.
Ce qu'il y a aussi, c'est qu'à une époque, la mise en scène était invisible, et on pourrait dire ça de tout le cinéma classique. Et puis aujourd'hui, quand les choses sont invisibles, il n'y a plus de vérité au bout. Parce que quand même, je pense que dans le cinéma classique, il y avait le cinéma classique des années 30, 40, 50, auquel moi je suis attachée, me semble-t-il, n'arnaquait pas sur la vérité. Il y avait une vérité qui était dite, mais la mise en scène, ou l'image et les sons ne se donnaient pas à voir. Puis aujourd'hui, je crois que les choses qui se veulent invisibles, alors qu'on est envahi par les médias, l'image et le son partout, ben justement, je crois que c'est des cinéastes comme vous Et puis, ils sont peu nombreux, à mon avis, qui justement montrent à voir les sons et les images qui peuvent arriver à une vérité. Parce que les choses sont visibles. Le travail est visible.
Oui, on voudrait abstraire, comme abstraire la caméra, bien qu'elle soit présente et qu'on la voit, on voit la caméra, les caméras tournoyer autour d'un personnage et tout ça. Bon, il y a dans mon dernier film qui n'est pas encore monté, il y a une phrase qui dit cela. Il faudrait que je la retrouve parce que je crois qu'elle est très bien écrite. Bon, j'ai peut-être pris plus de temps à l'écrire que je n'en prendrai à essayer de la redire, cette phrase. Mais qui parle comme ça d'un ballet de caméras qui tourne autour, on ne sait pas autour de quoi, je ne sais plus comment c'est formulé. Et puis qu'une des caméras. Et peut-être, je découvre pour moi-même cela, mais c'est peut-être élémentaire en même temps ce que je découvre. En tout cas, j'en reviens à ça, une des caméras se détache du groupe et montre le balai des caméras qui tournent, voilà. Cette caméra n'observe plus ce que les caméras observent, dont on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas. Ou ça peut être quelque chose d'important. En tout cas, c'est masqué, cela, on ne sait pas quoi. Et donc, cette phrase parle de la caméra qui se détache du groupe et qui désigne la vanité de ce ballet de caméras, de ces caméras qui tournent comme autour du vin. Hein, la vanité de ce ballet, quoi. Oui, d'une certaine manière. Et donc, moi, je suis cette caméra solitaire et chaque créateur devrait être cette caméra solitaire et ne pas faire partie d'un ballet organisé d'un point de vue occulte, enfin celui des médias, celui de l'information, de la pseudo-information et tout ça. Ces caméras s'attachent, enfin quand on regarde la télé, à vraiment tous tes sujets à tournage. Un tel est mis en examen, il suffirait d'une caméra pour le filmer, ou il suffirait d'un portrait du personnage, ou il suffirait d'en parler simplement. Mais il faut faire image avec cela. Et alors on montre cet homme mis en examen, mais il n'a rien de plus ni de moins qu'un autre homme. On le voit, on le montre, qui déambule dans le couloir d'un palais de justice, qui se rend à une convocation ou quoi. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt de montrer cela. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus détaché possible et de désigner la vanité de cela. Enfin, on n'est pas toujours assez détaché, parce qu'il y a tellement de caméras qu'il y en a toujours une qui en filme d'autres. Mais je veux dire, c'est une métaphore que je fais là. Et voilà, c'est se mettre avec sa caméra, être au plus près des choses et des gens, en se mettant avec sa caméra au plus loin, au plus éloigné de la personne et de l'événement. Voilà, du visible. Quoi que l'on puisse faire image. Mais cette image, disons qu'alors on fait une image qui appartient davantage, qui est plus dans le vrai, parce qu'elle appartient au spectateur, cette image. Parce qu'elle appartient, elle se met. Il y a un passage de l'image, je crois qu'il y a un seuil de franchissement que je recherche, du passage de l'image, de mon image, de l'image que je suis en train de faire, de constituer, de créer, à l'imaginaire du spectateur. Voilà, je crois que c'est ça l'important. Dans le rapport au spectateur, du créateur au spectateur, il doit y avoir absolument le repérage du seuil, du passage de l'image du créateur à l'imaginaire du spectateur. Voilà, moi je crois que c'est un point essentiel. Bon, je le découvre comme ça de temps parlant. Je ne dis pas que c'est une grande découverte, mais je dis que ça fait partie de la réalité de l'audiovisuel. Mais c'est une chose dont on ne parle pas toujours suffisamment. Et je suis heureux, là, tout en parlant, de le formuler de cette manière. J'espère qu'elle est assez claire. Mais voilà, pour moi, ça arrive à cette formulation que je redis, parce que je la trouve bien. Le passage de l'image créée par faite par le créateur, constituée par le créateur, à l'imaginaire du spectateur. C'est ça qui compte. Or, on bloque plutôt l'imaginaire du spectateur de nos jours, plutôt qu'on ne le débloque. Moi, je crois qu'il y a un déblocage du spectateur. Je ne dis pas que c'est une mission à accomplir, qu'il faut partir comme sacré en se disant « je vais débloquer l'imaginaire du spectateur ». Mais je crois que c'est d'abord, étant donné qu'on est de toute façon le premier spectateur, c'est d'essayer de tenter de chercher à débloquer son propre imaginaire. Mais c'est ça la démarche du créateur, c'est de débloquer ce qui en soi est spectateur et débloque l'imaginaire de ce spectateur qu'on est, que nous sommes à être créateur.